Bonsoir à tous. Je vous invite à vous rapprocher, si vous voulez bien, pour qu'on ait le sentiment de former ici un amphithéâtre, voyez, avec la première partie de la salle. Ah, très bien. Vous qui avez fait l'effort de venir ce soir, vous êtes bien heureux, parce que vos oreilles vont entendre des choses très intéressantes. Le titre qui nous est proposé, c'est « Le jour où l'histoire de la vie ». Le titre qui nous est proposé, c'est « Le jour où l'histoire de la vie est repartie à zéro ». Le jour où l'histoire de la vie est repartie à zéro. Certains pensent que la vie a démarré il y a, oh là là, des millions et des milliards d'années. Pour la Terre, on dit 4,54. On dit. Voilà, pour l'univers, on dit 11 milliards et plus, peu importe. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous. C'est hors du temps, en apparence. Et on va découvrir que la Bible a un message tout à fait particulier à nous offrir à ce niveau-là. Et notre conférencier Paolo Beni nous a annoncé un focus sur la résurrection du Christ. Voilà, donc Paolo Beni avec nous pour traiter ce sujet. C'est donc un homme qui a beaucoup voyagé, qui continue de voyager dans le monde. Il a été plusieurs fois en Israël et justement il va nous offrir quelques photos prises là-bas, sur place, pour appuyer donc son propos. À vous la parole.
Bonsoir. Comment allez-vous? Le sujet de ce soir, c'est, je crois, le plus important, le plus délicat. C'est lui qui demande la foi plus que tout autre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle de la résurrection du Christ, on touche le thème qui est vraiment change d'histoire. J'ai quelques photos à vous montrer avant. Ça, c'est un olivier qui se trouve dans le jardin de Gethsémani. La guide disait qu'il y a plus de 2200 années. Donc, ces oliviers-là, peut-être, c'est un des oliviers qui a entendu les cris de Jésus. Quand il disait, si c'est possible, enlève ce fardeau. Il y en a beaucoup de plants d'olivier là. Ça, c'est un autre côté. Il y a des plantes nouvelles. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Voilà. Ça, c'est l'entrée. Tout près des jardins de Gethsémané, pas tellement près, de l'entrée du tombeau. Vous avez été déjà en Israël, quelqu'un d'entre vous? Il y a deux places qui les gens se disputent, l'authentique calvaire et l'authentique tombeau. Un, c'est au point plus haut de la ville, dans la ville, même s'ils disent qu'au temps de Jésus, c'était un coin hors de la ville. Et l'autre, c'est celui-là, qui est sur la route qui va vers le nord, qui est hors de la ville. J'ai d'autres photos, mais le soir qui vient, je vous les montrerai. Et c'est le calvaire et il y a là l'image d'un écrin, crâne. Et il y a on voit les yeux, tu les as vus, non? Et à 150 mètres, même moins, il y a le tombeau qui est le tombeau qui ont dit Jésus a été mis là. On peut entrer dans ce tombeau, et là je vous fais voir la place où Jésus a possiblement été. Et l'autre partie, il y a beaucoup de tombeaux tous ensemble. Et ce sont des tombeaux, pour entrer, il faut se baisser, tu es entré là-dedans. Et il faut se baisser et on ne peut pas, il y en a beaucoup. Ça, c'était, la Bible nous dit que c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée, qu'il était un homme riche et qu'il avait fait excaver son tombeau dans les rochers. Et on pense qu'il a fait excaver un tombeau pour une famille maximum. L'autre, il y a dans l'autre au moins une quinzaine de places, mais c'est très petit, très. Et vous rappelez que les femmes disaient qui va nous rouler la pierre? À part le fait que dans l'autre, il n'y a pas la place pour rouler la pierre, ici, on voit quelque chose. Vous voyez qu'il y a là, je n'ai pas. Ici, non, je ne peux pas. Ici, vous voyez. Oui, c'est le bas du poteau de fleurs. Là, c'est la place que la pierre roulait. Et la pierre n'est plus là maintenant. Et alors, je vous fais voir un autre tombeau qui est dans la route pour aller. Oh, voilà! Voilà. Alors, c'est ceci. Alors, vous voyez ici, ici, il y a quelque chose de rond, il semble, non? Peut-être que la pierre avait cette dimension-là, et c'est impossible pour trois femmes rouler une pierre comme ça. Sur la route qui va de Jérusalem vers le nord, vers la mer de Galilée, il y a un autre tombeau. Sur la route, on s'est arrêté pour le voir. Et ça, c'est l'entrée, c'est si haute. Et vous voyez là qu'il y a le même cheminement pour la pierre. Et il y a la pierre qui est comme on utilisait, on roulait la pierre et les personnes étaient, les corps étaient mis là. Quand j'ai été là, j'ai été deux fois dans ce tombeau-là, celle-ci, et ça fait une impression très forte. Tu vas avoir cette impression. Parce que on se demande, on imagine, on pense, et c'est encore plus. Parce que c'est dans le même jardin, on va à l'extrême opposé, il y a le calvaire. On ne peut pas monter au sommet maintenant parce qu'il y a un cimetière palestinien, musulman, et on ne peut pas, les non-musulmans ne peuvent pas entrer. Et c'est là que probablement ce jour, ce vendredi après-midi, est arrivé là. Cette chose est tellement importante. Voilà. Maintenant, entrons dans les thèmes. S'il y a un sujet qui aujourd'hui est au centre de l'intérêt de la plupart des gens, c'est le thème de la mort. Même si on essaye de n'y pas penser, la mort, elle est là. Et face à la mort, les gens se posent continuellement des questions. Il y a des réactions tout à fait différentes l'une de l'autre. Pensez que je vis en Suisse, un des pays plus riches, où les gens ont les niveaux de vie parmi les plus hauts. Il semble qu'avant la Suisse, il y a la Finlande, et après il y a Singapour et après il y a la Suisse. Mais les piles, les produits économiques de chaque année, la Suisse est le numéro un pro capita, comme divisé par la personne. Et de toute façon, c'est avant la Finlandie. Et en Suisse, il y a un taux très élevé de suicides. Mais pas seulement ça. Ma belle-sœur vit, elle a déplacé maintenant, elle vivait tout près d'un centre des malades terminales. Et parfois, elle voyait deux voitures entrer. Ils venaient à prendre une personne. Et après quelques 25-30 minutes, l'autre, une des voitures sortait avec le cercueil. Parce que les gens de toute l'Europe vont pour faire l'euthanasie, pour mettre fin à leur vie. Beaucoup de ces personnes le font parce qu'elles ne peuvent plus supporter la tragédie de leur vie. Parmi eux, il y en a qui pensent que c'est un passage à une autre réalité. Et après la vie, c'est la grande question que les gens se posent. Et je crois que nous aussi, nous nous posons cette question. Il y a beaucoup de théories. Ce sont des théories, ce sont des philosophies, ce sont des doctrines existentielles. Quand on vient au thème de la résurrection, on passe tout de suite d'une théorie à une autre, mais derrière cette autre théorie, il y a les faits. Si Jésus est ressuscité, la résurrection comme aspect existentiel de la vie humaine, c'est plus une théorie. C'est une base qui a derrière les faits. Si Jésus est ressuscité, il y a la réponse. Si Jésus n'est pas ressuscité, chacun peut avoir sa théorie et sa réponse. Vous comprenez? Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons cette grande nécessité de comprendre par rapport à la résurrection? Donc, je dois vous dire que la résurrection, c'est logiquement, scientifiquement, encore une idée impossible. Parce que on n'a pas, à part les épisodes qu'on a dans la Bible, on n'a pas de points de référence des personnes qui sont retournées. Oui, aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens qui ont entré en coma, qui sont morts et après quelques heures ou quelques jours sont retournés. Vous avez entendu dire de ça. Mais il y a des explications scientifiques. J'étais un jour avec un médecin, on était en train de faire un plan de 5 jours ensemble. Vous savez tous qu'est-ce que c'est le plan de 5 jours. C'est une thérapie de groupe pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et on est rentré à la maison, c'était vers 10h30 du soir. On s'est arrêté dehors avant d'entrer dans la maison, dans la voiture, pour parler. Et tout d'un coup arrive la sœur du médecin. Viens, 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 que grand-père, il est en train de mourir. Il avait 92 ans, donc c'était. Et je l'ai assisté. La maman, lui, n'a pas pu résister, ils l'ont emmené dans une autre salle. Et pendant qu'on parlait, j'ai posé la question. Mais qu'est-ce que tu penses ces cas qui disent qu'ils sont morts, qu'ils sont allés, ils ont vu et se retournés? Vous avez entendu parler de ça? Et lui, il m'a expliqué. C'était le directeur du département de otorino-laryngoiatrie de l'hôpital de la ville où on était. Il a dit que le cerveau, pendant au moins 2h30, il continue à avoir une sorte d'activité. Et si la personne retourne à la vie, dans ce moment qu'il était là, il n'était pas sous le poids de la souffrance parce que le cœur a terminé, et il vit une sorte de... Il est très léger, il ne souffre plus. Il passe dans une situation de souffrance, de peur, d'émotion lourde, à une situation différente. Quand il revient, il pense d'avoir été qui ça. Ça, c'est l'explication que j'ai demandé aussi à d'autres savants, un chercheur qui travaille beaucoup sur cela de l'Université de Turin, et ils m'ont donné la même explication. Après, j'ai rencontré une personne qui a vécu cela. Et elle m'a dit, elle est adventiste, comme elle m'a raconté la chose, elle a suivi les mêmes steps que ce médecin m'a dit. La résurrection donne plusieurs réponses. Entre dans l'aspect que la Bible nous dit. Vous savez que dans la Bible c'est écrit que les morts dorment. Le mot « résurrection », comme nous l'avons, vient de deux mots grecs. Un mot, c'est « anastasis », l'autre mot, c'est « egeiro ». L'un, « egeiro », signifie « se réveiller ». Donc, il dort, la personne se réveille. L'autre mot, c'est le mot « anastasis », qui signifie « nouvelle création »,« récréation ». La résurrection, c'est une récréation dont celui qui est actif, ce n'est pas la personne même, mais c'est quelqu'un du dehors. Qui croit à l'immortalité de l'âme, croit à quelque chose qui est en soi-même, et lui, il est l'acteur de sa destinée. Croire à la résurrection, c'est mettre confiance à quelqu'un qui a le pouvoir de me rappeler à la vie. Ça change complètement la perspective, du moi à Dieu. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, il revivra, il vivra. Le texte original ne dit pas, même s'il meurt, il vit. Ce n'est pas aller au présent, il revivra. Et ça pose... La question de la confiance en quelqu'un qui a ses pouvoirs. Quels sont les arguments? Tout d'abord, la résurrection, c'est une création que les dieux de la Bible a inventée, a créée. Ça vient seulement de la religion de la Bible. Il n'y a pas d'autres doctrines existentielles qui ont le thème de la résurrection. Et tout autre est lié à l'idée de l'immortalité de l'âme, qui a été la première proposition qui a fait les tentateurs au jardin d'Éden. Croire à la résurrection signifie faire confiance que le fait qu'a vécu Jésus, ça peut être le nôtre aussi, grâce à lui. Voilà quelques mots pour nous dire comment, pourquoi c'est si important ce thème de la résurrection. Venons maintenant à réfléchir ensemble sur quelles sont les raisons intellectuelles et logiques, pas historiques, logiques, pour croire à la résurrection. D'abord, je vais vous présenter quelques raisons critiques. Quels sont les arguments qui ont été avancés dans les temples contre la résurrection du Christ? Alors, la première, c'est, vous le lisez dans l'évangile de Matthieu, Jésus est ressuscité, en réalité n'est pas ressuscité, le tombeau était vide parce que les disciples ont volé son corps. On y reviendra. Autre critique, autre explication, ils n'ont pas vu Jésus vraiment, ils ont eu une hallucination mystique. La troisième, en réalité, Jésus n'est pas mort. Il est seulement évanoui. Et quand ils l'ont mis dans le tombeau, après un peu, il est sorti du coma et il est retourné. Il y a une autre critique encore plus grave qui existe encore, qui est aussi avancée aujourd'hui. Et ça, c'est une critique qui a pris corps dans beaucoup de sujets bibliques. Par exemple, l'Exode, Ancien Testament. On parlait avec Matthieu, il y a des théologiens qui disent que l'Exode n'a jamais existé. Mais au temps de Néhémias, les Juifs qui rentraient de Babylone, les leaders voulaient donner quelque chose qui donnait identité à ces peuples. Ils ont inventé que ce peuple a été délivré dans le passé par Dieu de plus puissant empire de ce temps-là. De la même manière, Dieu va libérer Israël aujourd'hui, à ce temps-là. Ça, c'est une théorie qui a été appliquée aussi à la résurrection du Christ. Après plusieurs années, cette communauté chrétienne avait besoin d'une raison forte pour croire à leur identité, à leur mission. Et leur chef, leur guide, le Christ, était ressuscité. Et eux, ils suivaient quelqu'un qui avait vaincu la mort. Alors, cette critique a été répandue depuis le 4e siècle. Et aujourd'hui, il y a des théologiens qui soulignent et proposent cette solution. Mais quels sont les arguments pour lesquels nous pouvons croire à partir de la Bible? Après, je me suis rendu compte quand je suis ici que j'ai oublié de prendre un document que je vais vous faire voir demain soir, la continuation de la situation de Flavius Joseph que j'ai lu hier soir. Vous étiez tous là hier soir. J'ai lu une citation de Flavius qui disait qu'à ce temps-là a été Jésus de Nazareth. Il y a la continuation que je n'ai pas avec moi. Je l'ai, mais je dois la trouver. Alors, première situation. Les disciples n'ont pas pu inventer la doctrine de la résurrection du Christ parce que ils ne croyaient pas à la résurrection. Si vous lisez Jean chapitre 20, verset 9, il dit que Pierre sort de la tombe, il secoue la tête, il n'arrive pas à comprendre, et le texte dit parce qu'encore il n'avait accepté ce que Jésus avait dit à eux. Et quelques semaines plus tard, Jésus donne rendez-vous à eux en Galilée. Vous les lisez en Matthieu 28, verset 17, c'est écrit que Jésus apparaît à eux, il les voit, il se réjouit, mais quelqu'un encore doutait. Parce que l'idée de la résurrection, c'était complètement étrange à leur attente et à leur culture. Les deux disciples qui vont à Emmaüs, ils sont tristes, sombres, déprimés. C'est vrai que quelques femmes m'ont dit qu'ils l'ont vu vivant, mais nous n'avons vu rien. Nous ne croyons pas. Alors les disciples n'ont pas pu inventer la théorie de la résurrection à ces jours-là. Troisième argument. Une des théories qui a été avancée, c'est que le corps a été volé. Le tombeau était vide parce que le corps avait été volé par les disciples. Vous lisez dans les évangiles que le même vendredi soir, les prêtres et les pharisiens vont à Pilate, ils disent, cet homme, il a dit qu'il serait ressuscité il y a 3 jours. Mais des soldats bien gardaient le tombeau parce qu'ils vont dire ça. Et après la résurrection, quand les soldats, les policiers, comme on dit, les gardiens en français, les gardes disent ce qui s'est passé. Tout de suite, les pharisiens, les prêtres disent aux soldats, dites que les disciples sont venus, ils ont volé les corps. Et ils lui donnent des raisons, et si Pilate dit quelque chose, nous allons les convaincre. Alors, cette phrase, ces mots ont circulé. Et vous voyez les contextes dans lesquels ont circulé. Voilà les textes qui disent ces choses-là. Autre argument, la communauté chrétienne n'est pas. Elle est née parce qu'ils ont vu le ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu d'église chrétienne. Parce que c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'il était vivant, qu'ils l'ont vu. Et Jean dit dans sa première épître, nous l'avons vu avec nos yeux, nous l'avons touché avec nos mains. Vous comprenez? Et voilà qu'il y a d'autres textes qui témoignent cette réalité que eux ils l'ont vu, eux ils ont touché. Alors le texte des Actes 1, 3 à 5, c'est un de ces textes. L'autre c'est Actes 11 à 22, et Pierre prend la parole après qu'ils l'ont vu, ils l'ont vu monter au ciel, ils l'ont embrassé, ils ont mangé avec lui. Quelle expérience a été celle-là, hein? Ils ont mangé avec Jésus. Thomas, qui ne croyait pas, moi je veux mettre les doigts parce qu'autrement je ne crois pas. Tous ces problèmes avaient été résolus. Alors réfléchissez bien maintenant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je veux partager avec vous. Je veux partager avec vous. Dès maintenant, jusqu'à la Pentecôte, combien de jours il y avait? 40 jours depuis la résurrection, plus 10 jours. C'est clair? Quel est le thème que vous trouvez dans les Actes des apôtres, que les apôtres argumentent pour démontrer leur foi? Il est ressuscité. Où ils prêchent la résurrection? À Jérusalem. Les gens de Jérusalem savaient où Jésus avait été enseveli, dans quel tombeau il a été mis. Si Jésus n'était pas ressuscité, à une annonce de la résurrection, mais qu'est-ce que vous dites? Non, il est encore là. Les disciples commencent à prêcher à Jérusalem, là où les faits étaient arrivés, et là où ils l'ont vu, et là où les gens savaient. S'il n'était pas ressuscité, les critiques, surtout des chefs, des pharisiens, des docteurs de la loi, auraient été bien claires. À qui voulait faire croire cette chose? C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, tout cela nous donne une réponse importante. Les disciples ne croyaient pas à la résurrection. Donc, s'ils n'étaient pas ressuscités, ils ne pouvaient pas inventer la résurrection. Les disciples avaient peur. Ils étaient serrés, vous vous rappelez. Ils avaient peur. Peur de juifs. Imaginez si des gens qui avaient peur des juifs, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas au nom de Jésus, la nuit, il va vers les soldats, il vole le corps du Christ. Ça n'existe pas. Donc, tous les récits ont une logique et une. Sont des récits qui montrent qu'il y a une réalité qui est derrière. Allons-y à l'avant. À cause de cela, Paul Althaus, qui a été un pasteur et théologien suisse luthérain, il dit « La proclamation de la résurrection n'aurait pas tenu un seul jour, pas même une seule heure, si le fait que le tombeau était vide n'était pas démontré comme un fait pour tous les intéressés. Tous les gens savaient. D'ailleurs, quand Pierre et Jean ont été mis en prison, après ils ont été devant le Sanhédrin, ils n'ont pas contesté qu'il n'était pas ressuscité. Ils ne voulaient qu'il prêchait de lui. C'est clair? Vous me suivez? Ok. Allons à l'avance. Ça. Les tombeaux vides. Si vous allez à voler encore dans un tombeau comme celle que vous avez vu, qu'est-ce que vous faites? Vous le dépouillez, vous pliez toutes les choses, vous le mettez bien. Vous faites ça? Vous faites tout le possible pour prendre les corps le plus vite possible. Quelqu'un reste à la porte. Aïe, on y est, allons-y. Tandis que dans le tombeau, c'est tout là. Et c'est intéressant. C'est écrit que les bandes, on dit les bandes, étaient par terre et que le soudaire, les draps, il était plié. Alors moi, j'ai vu plusieurs images, plusieurs peintures, que Jésus était sur une table et qu'il était dans un cercueil, qu'il y avait une pierre en dessous. Le texte nous dit quelque chose qui coïncide avec ce qu'il y a là. Il était par terre. Il n'y avait pas de table. Vous voyez comme il était. Et moi, j'ai pris la photo. Je n'ai pas pris la photo de l'autre côté pour faire voir la fenêtre. Mais de l'autre côté, d'ici, il n'y a pas tellement d'espace pour mettre un autre tombeau. C'était l'unique tombeau qu'il y avait. D'autres pourraient être de l'autre côté, là. Mais ça, c'était la place de la tombeau. Mais il n'y avait pas la place pour faire ça. Alors, je retourne là maintenant. La critique des ont eu des hallucinations mystiques. Alors, les hallucinations mystiques peuvent arriver à une personne, à deux personnes. Peut arriver à des personnes qui veulent à tout prix avoir une vision. Moi, j'ai vécu pendant 12 ans en Sicile. Sur le volcan Etna, il y avait une place que pendant 6 ans, il y avait les apparitions de la Vierge. Et les gens étaient là. Et ils regardaient vers la lumière du soleil. Il y a des gens qui sont devenus aveugles pour regarder dans la lumière du soleil. Mais ils étaient si dans le désir de voir cette vision que n'importe quoi, ils regardaient vers la lumière du soleil. Les disciples n'avaient pas... Ils avaient toute autre perspective. Vous vous rappelez en Jean 22, c'est écrit que Pierre et quelqu'un d'autre se sont retrouvés une soir et Pierre dit, moi je vais pêcher. À la pêche, on dit la pêche. Nous venons avec toi. Ils n'avaient pas de perspective. Pas d'hallucination. Mais il y a quelque chose d'autre. L'Écriture dit que 500 personnes ont vu Jésus. Vous vous rappelez l'apôtre Paul aux Corinthiens? Ils ont eu toute l'hallucination. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a une autre chose. Paul, lui-même, il aurait eu une hallucination quand il était sur la route de Damas. Mais Paul n'avait aucune envie d'avoir une vision mystique. Il est devenu aveugle, pas parce qu'il voulait voir, mais parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'était pas prêt à aller voir. Voilà, ça c'est la logique qu'il y a derrière les textes bibliques. La résurrection est dans un contexte d'événements qui sont pratiques, logiques, pour lesquelles nous avons des éléments qui ne construisent pas la foi, mais ils confirment la foi. La foi n'a pas besoin de preuves, mais les preuves aident la foi. Et une des épreuves sont ce que nous avons vu hier soir, les prophéties qui arrivent ayant été annoncées à l'avance. Alors, quoi faire? À quel point nous sommes maintenant? Premier, hein, je voulais vous faire voir la citation de Flavius Josèphe. Hier soir, j'ai parlé de je vous montrer deux citations, vous vous rappelez. Flavius Josèphe, dans la deuxième citation que j'ai amenée, il y a une continuation. Il est dit, 3 jours après, ils l'ont vu encore vivant, comme les anciens prophètes avaient dit. Or, cette citation, comme c'est la spécifique citation pour laquelle les écrits de Flavius Josèphe, ils ont été retenus, manipulés, qu'ils ont fait ils ont ajouté des phrases. Mais comme je vous ai dit hier soir, cette citation-là est aussi dans la traduction en syriaque qu'elle a été faite au IIe siècle et pas autour de l'année 1000 comme les critiques disent. Alors, la résurrection du Christ donne une série de confirmations très importantes. Première, l'apôtre Paul au Romains chapitre 1 verset 4, il dit que le Christ ressuscité donne la confirmation qu'il était le Fils de Dieu. Déclaré Fils de Dieu selon le pouvoir de sa résurrection. Premier argument. Deuxième, la résurrection dans la Bible est liée logiquement à la mort et au don de sa vie, à sa mort sur la croix qui est pour notre salut. Jésus avait dit, 3 jours après, je ressusciterai. Preuve que ce qu'il avait fait avant pour notre salut avait été accepté par le ciel. Troisième argument. L'apôtre Paul, en Romains 6, met la résurrection comme victoire contre la mort, contre le péché. La résurrection de Christ est la victoire. Et sa résurrection est la garantie qu'avec le Christ ressuscité vivant, nous pouvons vaincre. Nous ne croyons pas à quelqu'un qui est mort. Nous croyons à un Seigneur vivant, qu'il a vaincu la mort et qu'il a donné, avec sa résurrection, la garantie de notre future résurrection. Et encore, finalement, la résurrection, c'est la réponse, la définition, l'explication de ce qu'il y a après la vie, qu'est-ce qu'il y a dans la mort. Toutes les autres sont des théories bien construites qui ont une logique philosophique, mais le fait n'est pas là. Avec la résurrection du Christ, ce que lui il avait dit par rapport à Lazare ou par rapport à la fille de Jairus, qu'il dit la petite n'est pas morte, elle dort. Et la même chose a dit pour Lazare. Avec sa résurrection, il confirme sa vérité par rapport à la vie et à la mort. Avec sa résurrection, il nous donne la garantie que ce qu'il avait dit, « Je suis la vie, la vérité et le chemin. » Je ne sais pas si l'ordre... Et voilà, je l'ai dit au contraire. Une phrase comme celle-là trouve tout son pouvoir pour le fait qu'il est vivant. Comme vivant, il a pour nous le pouvoir de nous donner, d'être notre vie. Et le texte de Jean, chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Voilà, maintenant, je vais terminer ici. À vous de faire. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous avez quelquefois eu la nécessité de donner des réponses par rapport à la résurrection et que ce que nous avons vu ce soir peut être d'utilité à vous? Nous avons, par rapport à la vie et la mort, grâce à la résurrection du Christ, la plus belle, la plus historique, la plus logique, la plus croyable doctrine sur la vie et sur la mort. Nous avons une réponse qui trouve dans la résurrection du Christ tous les supports dont nous avons besoin. Et finalement, nous croyons que Jésus reviendra. Il viendra celui qui l'est ressuscité. Nous le verrons comme il est. Les jours que Jésus va, le même jour de la résurrection, il fait le cheminement avec les deux disciples d'Emmaüs. Et avec eux, il démontre ce qui devait être grâce à la parole de Dieu. Et commençant de Moïse jusqu'à tous, il a appris à eux toutes les choses qui les concernaient. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important là? C'est lui qui donne la totale autorité à la parole de Dieu, c'est le Christ ressuscité. Et c'est très important ça. Nous avons confiance dans la Bible parce que la Bible est croyable. On peut la croire, la Bible. Hier soir, j'ai reçu un email d'une dernière découverte il y a 15 jours qui a été faite à Jérusalem. La preuve que Jérusalem a été détruite par Nabucodonosor au 16e siècle. Et le titre du vidéo, c'était « Autre démonstration que la Bible a dit le vrai ». C'est vrai, nous avons beaucoup de preuves aujourd'hui que la Bible a dit le vrai. Mais c'est lui qui donne toute la confirmation à la parole, c'est le Christ ressuscité. Luc 24, dans cette belle prospective.